Et donc, nous allons passer à la deuxième partie,
Ouais.
qui concerne l'évolution des modèles, des théories et des modèles dans ton domaine. Alors, dans la première partie, tu as mentionné un certain nombre de points qui sont vraiment importants, notamment, par exemple, le lien, enfin, qu'à une époque, il y avait très peu de liens entre perception et production. Donc là, tu sembles avoir vu une évolution concernant. Donc ça, c'est un premier point qui pourrait être intéressant. Un deuxième point, c'est, tu as mentionné également que lorsque tu étais en postdoc, chez Ouli, tu as travaillé sur des modèles de reconnaissance des
Des
mots.
mots.
Et donc, quels sont ces modèles? Comment ont-ils évolué? Et peut-être mentionner également le fait que c'est un domaine où les avancées méthodologiques ont probablement joué un rôle très important par rapport aux aspects théoriques. Je ne sais pas si tu veux nous parler aussi des évolutions méthodologiques. Et puis, bien sûr, d'autres points si tu as envie, mais
Tout ça, c'est un petit peu un ensemble. Alors, c'est effectivement, moi, quand on était purement en phonétique, en fait, les problèmes qui se posaient, en fait, à l'époque, étaient de comprendre, on en a déjà parlé, mais comment cette forme phonétique, qui est quand même assez variable, c'est-à-dire quand on produit, bon, je prends l'exemple des, vous voyez, des consonnes parce que c'est ce que je connais le mieux. Pendant un moment, on avait tendance à penser que les choses étaient relativement peu variables et en fait le signal acoustique lui-même permettait en fait de reconnaître les phonèmes et donc de reconnaître les mots en fait. Or, même dans... Alors, c'était l'époque où on travaillait justement sur des choses qu'on appelle très contrôlées. Donc, on travaillait sur des mots lus ou sur des syllabes ou sur des choses comme ça. Donc, même avec... En travaillant sur des choses très contrôlées, il y a quand même de la variation en fait qu'on arrive à observer. Donc il y a eu des modèles en fait qui tentaient d'expliquer ça en fait. Donc il y a eu la théorie de l'invariant de Stevens et Blumstein en fait qui essayait de dire que malgré ces variations, il y avait des formes acoustiques invariantes en fait dans le signal qui nous permettaient en fait d'accéder aux informations. C'était beaucoup remis en question. Il y a aussi à l'époque et donc ça c'est la théorie de Liberman en fait qui essayait de mettre en lien justement production et perception, c'est-à-dire qu'en fait la façon et c'est revenu d'ailleurs ça a été complètement perdu de vue pendant un moment et c'est revenu il y a pas si longtemps en fait l'idée qu'en fait la façon dont on percevait les sons était fonction de la façon dont on les produisait en fait et qu'il y avait une activation, une espèce de boucle en fait. Il y a beaucoup de modèles qui sont revenus là-dessus sur cette boucle en fait production-perception où le laboratoire Gipsa à Grenoble ont beaucoup travaillé là-dessus en fait sur le fait qu'en fait il y a une espèce de boucle en fait qui permet d'avoir accès au son parce qu'en fait ça active en fait c'est en lien avec une activité motrice en fait qui permet de reconnaître les sons. Donc il y a pas mal d'expérimentations qui ont été faites dans ce domaine qui semblent effectivement montrer ce genre de choses.
Mais en même temps, le problème de la variation, qui est donc un problème qui t'intéresse
Oui, particulièrement.
particulièrement, il faut quand même qu'il y ait un modèle, enfin naïvement, on pourrait penser qu'il faut quand même qu'il y ait un modèle central qui permette de reconnaître ce qu'on veut identifier à travers les variations.
Tout à fait, mais oui.
Mais tu
Le
dis que ce
problème, c'est de
modèle, il a...
savoir. Le problème, c'est de savoir si dans pas mal des modèles, les modèles psycholinguistiques de reconnaissance des mots, hein, en fait, en fait, ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, c'est le mot en fait qui est central. Et que donc, en fait, donc il y a des approches un petit peu différentes. Il y a nous, vraiment, qui est à la fois psycholinguistique, mais aussi qui est vraiment, disons, en lien avec les aspects phonétiques aussi. Il y a des modèles qu'on appelle abstractionnistes, en fait, c'est le modèle de l'Airy, en fait, qui tendent à dire, on a une représentation abstraite, en fait, disons des mots, en fait,
Et aussi des voyelles et des consonnes.
Voilà, c'est ça. Et c'est une activation sous forme de traits, en fait, qui nous permet d'accéder aux mots. Donc l'idée, c'est d'avoir une représentation qui n'est pas détaillée, sur laquelle il n'y a pas d'autres informations qu'une représentation abstraite des mots. Et il y a plus récemment, il y a des modèles qu'on appelle modèles à exemplaires, en fait, qui tendent plutôt à dire les mots sont stockés, en fait, avec des variantes. Et en fait, par exemple, dans ces variantes, il peut y avoir plein d'informations, les mots en fonction du contexte, les mots en fonction des personnes qui vont les produire, des variantes régionales, plein de choses comme ça, en fait. Donc, qui nécessite un stockage, à la limite, un peu plus important, en fait. Donc, maintenant, on est plutôt sur des modèles hybrides, en fait, qui sont un petit peu entre les deux. Mais ce sur quoi on travaille maintenant, pose un petit peu question, c'est que c'est qu'on est toujours au niveau de l'unité du mot, en fait. Or, nous, ce qu'on observe, en fait, quand on travaille sur la parole, c'est que ces formes de variation, elles sont à cheval sur les mots, en fait, sur plusieurs mots, par exemple. Et elles vont être tout à fait ponctuelles, elles vont être fonction, du coup, de niveaux très différents, en fait. Donc, ces modèles-là ne permettent pas complètement de répondre à des formes de variation qu'on observe.
Mais alors, est-ce que vous auriez, par exemple, suffisamment de données pour introduire un espèce de changement paradigmatique qui conduirait à penser que dans le langage, ce n'est pas forcément le mot qui est le plus important, mais qu'il y a des unités de sens qui sont construites à partir des indices acoustico-phonétiques.
Le problème, c'est soit on se dit la variation de la parole, c'est souvent considéré en psycholinguistique comme du bruit, en fait. On ne traite pas ça, en fait. Et en fait, on a suffisamment d'informations contextuelles, d'informations top-down qui nous permettent de récupérer tout ça. Moi, j'ai tendance à penser que c'est vrai. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça, en fait. Ça ne permet pas d'expliquer tout. Ça n'empêche pas, et ça, c'est le modèle de Sarah Hawkins, en fait, de dire aussi, parallèlement, il y a des informations très fines dans le signal acoustique qui permettent de basculer, en fait, sur la façon dont on va récupérer l'information. Et alors ça, moi, dans les choses qu'on traite, alors on ne l'a pas vérifié, mais on a une intuition là-dessus qui est de dire, dans ce qu'on observe comme variation, je t'avais dit, moi, je travaille sur la réduction de la parole, donc sur le fait que là, quand je suis en train de parler, les phonèmes ne sont pas réalisés très prototypiquement, disons. Et il y a beaucoup d'informations qui sont sous-spécifiées. Mais la façon dont elle va être sous-spécifiée, elle n'est pas anodine. Elle n'arrive pas n'importe quand, elle n'est pas anodine, et elle sert probablement à quelque chose pour récupérer de l'information. Donc, on peut imaginer qu'il y a quelque chose d'un peu plus global, en fait, qui nous permet aussi de traiter l'information. Il y a aussi la prédictibilité, en fait, qui va nous servir à activer, effectivement, un certain nombre de choses. Il y a aussi que dans beaucoup de modèles psycholinguistiques, ce qui est traité comme mot, les mots, en fait, ce sont toujours des mots lexicaux, en fait. Or, quand on parle, en fait, on a à peu près la moitié, je crois, de mots qui sont des mots, ce qu'on appelle des mots outils, donc les pronoms, les prépositions, des choses comme ça. Mmh. Et probablement que le traitement, il n'est pas tout à fait le même, en fait. Donc, probablement qu'on ne va pas les traiter, on ne va pas traiter mot par mot, en fait. On va accéder autrement à l'information. Et le type d'information qu'ils véhiculent ne sont pas du tout le même type d'information qu'un mot lexical, en fait. Donc, et notamment ces mots, ce qu'on appelle mots fonctions, mots outils, eux, ils participent beaucoup à la réduction de la parole, par exemple. C'est des choses qui sont... Donc probablement qu'il y a des choses un peu plus globales, en fait, qu'un accès aux mots, ce qui n'empêche pas qu'il y ait probablement un accès aux mots aussi, en fait.
Mais, au niveau électrophysiologique, il y a des arguments pour penser que le traitement des mots outils et des mots à contenu sémantique est différent.
Est différent, voilà.
Oui, ça a été pas mal étudié.
Ouais. Ouais. Alors, au niveau de la production de la parole, il y a aussi des choses qui ont été montrées, où on observe, en fait, que les mots, justement, les mots fonctions, ces mots-là, sont... c'est Bybee, en fait, qui a montré ça. ils sont beaucoup plus réduits que les autres, par exemple. En fait, il y a beaucoup plus de réductions sur des mots fonctionnels, en fait, que sur des mots lexicaux. Ça n'empêche pas que les mots lexicaux sont quand même réduits, mais il y a beaucoup plus de réductions sur ces mots-là. Donc probablement qu'ils ne sont pas porteurs de la même information. On a l'impression qu'il y a, voilà, ils véhiculent. J'allais dire, c'est comme si c'était un peu de l'huile dans un rouage, quoi, en fait, un petit peu. Ça pourrait être quelque chose comme ça.
Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous dire un mot sur les travaux que tu as faits et l'évolution des modèles de reconnaissance automatique de la parole ?
Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Je travaille avec des collègues, effectivement, là-dessus. Et notamment, avec Corinne Fredouille, là, au laboratoire informatique d'Avignon, on encadre Kubra Baudour sur justement sur des détections en fait de réduction, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à identifier dans le signal. Et l'idée, c'est d'utiliser ces modèles-là, en fait, enfin des modèles de reconnaissance de la parole, pour détecter ces formes de réduction, parce qu'elles posent problème dans la reconnaissance de la parole. Elles posent de moins en moins de problèmes, mais ça nous permet en fait de les identifier. Donc moi, je suis plus dans l'utilisation des outils. Après, il y a c'est l'évolution de ces modèles de reconnaissance de la parole. Je me rappelle à l'époque justement où je travaillais sur les projets européens là, pendant ma thèse, les informaticiens qui travaillaient sur ces modèles allaient beaucoup chercher les linguistes en fait pour essayer d'avoir des informations pour la reconnaissance justement des mots, des segments. Et en fait, avec l'évolution, je pense, des réseaux de neurones, des choses comme ça, ils se sont beaucoup passés des linguistes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément besoin de nous, en fait, parce que ce n'est pas forcément des connaissances dont il y avait besoin, en fait, là-dessus, mais plutôt des modèles, en fait, qui permettaient de traiter l'information acoustique. Il n'y avait pas besoin de règles linguistiques, en fait, pour comprendre et pour faire fonctionner ces modèles, en fait. Donc, du coup... on s'est un petit peu éloigné pendant une période et on est revenu maintenant dans des collaborations qui nous permettent de c'est plus pour nous, en fait, c'est des outils qui sont intéressants maintenant, en fait. Et là-dessus, en fait, sur ces aspects-là, là, il y a eu un changement fondamental de l'apport des outils sur l'évolution de nos disciplines, en fait, qui est que, encore une fois, il y a encore, je sais pas, une trentaine d'années, on travaillait sur des corpus qu'on enregistrait, on enregistrait des mots. Donc, c'est des corpus à taille limitée, en fait. Et cette taille limitée faisait qu'on travaillait sur de la parole contrôlée, des phrases, des mots, etc. À partir du moment où les modèles de reconnaissance ont dû faire leur entraînement sur des gros corpus, puisque eux, ils avaient besoin de ça, ça nous a donné accès à des gros corpus, en fait. Donc, on s'est mis à travailler non seulement sur des échantillons, des tailles de paroles beaucoup plus importantes, mais aussi sur un autre type de paroles, parce qu'eux, il n'était pas question d'enregistrer des centaines d'heures, en fait, de paroles dans le laboratoire. Donc, ils allaient prendre des émissions radiophoniques, en fait, des enregistrements qui existaient. Mais cette parole-là, c'est pas des mots enregistrés, c'est pas des phrases enregistrées, c'est de la conversation. Et là, du coup, ça nous a donné accès...
La parole naturelle.
À la parole naturelle, et qu'on a pu à la fois... Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que cette bascule, elle est à la fois sur les méthodologies, mais aussi sur le contenu de l'objet qu'on allait regarder. Et donc, on s'est mis à aller chercher de l'information et à essayer de regarder à quoi ressemblait cette parole. Et c'est là que le mot « variation » a pris un peu toute son ampleur, parce qu'on s'est rendu compte que... ces choses qu'on arrivait à contenir, cette variation qu'on arrivait à contenir un petit peu dans des corpus contrôlés, là, par contre, on arrivait sur des choses beaucoup plus difficiles à cerner. Et là, de ce qu'on disait, en fait, au début aussi, c'est que le problème, c'est qu'on ne peut plus traiter, entre guillemets, manuellement cette parole. Il y a des centaines, voire des milliers d'heures maintenant de paroles, donc on ne peut pas aller voir dans le signal, en fait. Du coup, on s'est mis à faire des analyses acoustiques automatiques, en fait, de la segmentation, de la notation automatique. Tout est automatique et on ne va plus voir dedans.
Il y a quand même une supervision in fine, enfin, non ?
Alors, il y a une supervision. J'ai pas mal de collègues qui disent, mais de toute façon... Alors, on sait que, par exemple, les systèmes de notation automatique, il y a une marge d'erreur. Ils se trompent un peu. Mais sur la quantité de paroles qu'on a, l'idée, c'est que, voilà, c'est la marge d'erreur acceptable. soit c'est tout à fait entendable. La seule chose qui, à mon avis, moi, pose problème, c'est que, du coup, comme on n'a plus de vision et de connaissance de ce qui se passe dans le signal, on va chercher des choses que l'on connaît et qu'on connaissait d'avant. Et en fait, par exemple, ces phénomènes de réduction, si on ne va pas voir spécifiquement, si on ne va pas les regarder, on n'a pas d'idée, en fait, puisque la notation automatique, elle va noter tout ce qu'elle trouve par rapport à la transcription. Donc,
elle va noter ce qu'elle connaît.
Voilà, elle note ce qu'elle connaît. Mmh. Et du coup, nous, on va chercher ce qu'on connaît. Et en fait, il y a quand même une nécessité. Moi, c'est pour ça que je suis un peu entre les deux. C'est à travailler avec des outils automatiques, parce qu'on ne peut pas le faire sur des très gros corpus, mais aussi aller faire un petit peu des sondages pour voir ce qu'on trouve là-dedans. Parce que ça, sinon, on va avoir du mal à comprendre quand même un petit peu les phénomènes qui sous-tendent en fait cette adaptation permanente qu'on a en fait.
D'autant plus que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que le matériau en lui-même a changé.
Le matériau en lui-même a changé. Donc en fait, il faut quand même aller regarder à quoi il ressemble.
Exactement.
Ouais. Ouais. Ça a permis aussi d'accéder. Alors ça, c'est pas mon domaine, mais ce sur quoi travaillent beaucoup de gens maintenant dans la parole et surtout dans la communication, c'est que pendant très longtemps, on a travaillé sur des voyelles, des consonnes, des mots. Mais maintenant, de plus en plus, ce que fait Roxane, par exemple, Roxane Bertrand, qui est de travailler sur les feedbacks, ou Philippe, en fait, sur des phénomènes qui ne sont pas des mots, mais qui sont très présents et qui ont une importance considérable dans la communication. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte que ces phénomènes de feedback, c'est-à-dire de confirmer.
Fait.
Voilà, par exemple, je dis quelque chose et Mireille va dire oui, donc c'est même pas des... Enfin, ça peut être des mots, mais ça n'est pas forcément, quoi, en fait. Ça peut être des hochements de tête, ça peut être des choses comme ça. Ça a une importance considérable dans l'interaction, en fait. Et il y a assez longtemps, il y a John Locole et Richard Ogden qui ont... Enfin, assez longtemps, ça date ça aussi de la fin des années 90, qui se sont mis, c'est les premiers qui se sont mis à travailler sur ces petites choses dans la parole qui n'étaient pas ce qu'on mettait avant dans la parole. Et ils ont eu beaucoup de mal, en fait, à introduire, en fait, ces aspects-là. Richard Ogden, pendant un moment, il travaillait sur les clics, c'est-à-dire sur les... Voilà, des choses comme ça qui vont ponctuer la parole, qui sont des émissions sonores, en fait, mais qui pouvaient jusque-là paraître complètement en dehors, en fait, de l'objet linguistique, en fait. C'est l'objet linguistique tel quel, et qui sont mis à avoir une importance considérable.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'on travaille une évolution, plus sur la communication.
Une évolution énorme de passer du langage de laboratoire au langage, à la parole naturelle et à la communication.
Oui, et donc puis aussi sur ce qui était intégré avant dans la linguistique, qui étaient les niveaux traditionnels de syntaxe, sémantique, phonologie, morphologie, etc., qui date du début de la linguistique, à maintenant quelque chose qui est à la fois beaucoup plus large, mais qui aussi, et ça c'est important, Philippe dans le projet NR, Philippe Blache dans le projet NR OTIM, c'est ce qu'il avait essayé de faire, c'est de mettre en relation les différents niveaux, et en estimant qu'en fait on fonctionne avec un système de redondance, en fait, et de redondance d'informations, et que expliquer à un seul niveau, essayer de rendre explicable ce qui se passe à un seul niveau, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que finalement ce qui va se passer au niveau phonétique, la variation phonétique qui va arriver, elle va dépendre du lexique, mais elle va aussi dépendre peut-être de la structure syntaxique, de la façon dont le discours est organisé, et tout ça est un petit peu en interaction, en fait. Donc c'est pour ça que maintenant on a une vision un petit peu plus... on peut pas expliquer à un seul niveau, en fait, la complexité de ce niveau lui-même.
En fait. Oui, tout à fait, on en avait parlé avec Philippe Blache quand il était venu, et d'insister sur... les interactions qu'il y a entre les différents niveaux de traitement du langage, et de ne pas les considérer comme indépendants, hiérarchiquement organisés, etc.
Ça. En même temps, ça pose le problème d'une certaine explosion combinatoire, c'est-à-dire
qu'à
partir du moment où tu multiplies les niveaux, les interactions,
comment
on prend le problème, quoi. Ça le rend tellement complexe que...
Alors, ça le rend effectivement beaucoup plus complexe. Après, ça, c'est une ouverture énorme aussi, en fait, en termes d'interprétation, et c'est aussi parce qu'on était aussi arrivé à un niveau, à un moment donné, si on travaillait juste sur son niveau de description linguistique, On était bloqué, en fait. On était un petit peu... Là, moi, ça me permet, en travaillant sur la variation, de donner une explication, d'avoir une explicabilité sur le fait que c'est probablement un niveau qui va faire qu'à un moment donné, cette forme de réduction, elle est là, en fait, et pas à un autre endroit. Et ça ne dépend pas du niveau phonétique, ça va dépendre d'un autre niveau. En fait. Ça veut dire aussi que la programmation de la parole, quand on va parler, ce qu'on programme, c'est aussi assez global, en fait. C'est aussi quelque chose d'un peu plus global et moins séquentialisé, en fait, que ce qu'on pouvait avoir comme image avant. Donc ça, ça fait partie quand même des évolutions... importante du domaine. En fait.
Oui, on voit très bien. Non, tu nous as très bien expliqué l'évolution dans différents sous différents angles. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est très riche et très intéressant. Mais peut-être qu'il est temps de passer à la troisième partie de notre entretien. Et je donne donc la parole à Vincent.